Bonjour, nous sommes le jeudi 20 juin 2019, il est 14h15. L'artiste Laura Gauzlan et le critique d'art Pedro Moraes sont réunis dans les studios de la radio du U à la Folie Observatoire de la Villette à Paris. Nous enregistrons le 7e échange radiophonique Sleep Disorders, à l'occasion de l'exposition de Laura Gauzlan dans la chambre 19 à Aubervilliers.
Nous rentrons dans une pièce aveugle, une chambre peut-être, où on aurait de l'espace que pour dormir en position somnambule, debout. La chambre est verdâtre, dans un angle mort de la maison. Il y a un rideau couleur rose, rose peau, mais d'une peau sans vie. En rose qu'on ne sait plus s'y respire encore. Ce rideau cache quelque chose. Mais ce quelque chose, on préférerait ne pas le voir. Le rideau cache quelque chose qui nous hante encore. Deux pieds, derrière ce rideau, dénoncent la présence de quelqu'un. Ils sont peut-être déjà les pieds d'un cadavre, mais il y a encore la chair. Même si sa couleur a changé, c'est une présence, pas un spectre, encore, la matérialité d'un corps, qui pourrait avec nous, une momie peut-être. Une tête aussi surgit, renversée, de taille réduite. Une momie, sans doute, peut-être. Les pieds dénoncent une théâtralité. Ils n'ont pas peur de se donner comme artefact, d'être des personnages d'un film. La fiction est la matière de la vérité ici. La fiction construit un espace parallèle qui est le nôtre. Il y a du faux, de l'excès de réel, du théâtre, ce qui reviendrait à dire une construction à construire, à détruire. Et il y a un film où l'on voit une femme dans une autre pièce, un laboratoire peut-être, une chambre hantée. Elle tire sur un bang, touche une tête de taille réduite, desséchée, qu'elle plonge dans une baignoire pour enfants, en bassin d'émulsion, dans une composition chimique dont on ne sait pas si elle sert à hydrater, encore disséquer, lyophiliser, dessécher. Elle est dans un état autre, transformé, possédé peut-être, qui finit par nous hanter, une vampire. C'est une femme qui n'est pas exactement une femme, c'est un monstre. Elle excède le genre. Il y a un endroit qu'elle fume sur un bang, une pissoire pour femme, on dit pistolet pour femme. Elle ne nous quitte plus. C'est trop tard.
She knows she's aging. Will my strength weaken until my thirsty tongue bond to my toothless palate? Will my brain soften and shrink until it fits in a surgical beam? Today too, I heard an experience I hope to understand in a few days.
C'était un extrait du son de la vidéo, avec voix off et accompagnement sonore d'ascenseur. accessoirement.
Je n'ai pas dit le titre de l'exposition, d'ailleurs.
Mum, please. M-U-M, please, P-L-S.
Mm-hmm. Quand j'ai écrit ce texte, d'introduction pour parler un peu de la pièce, tu m'as dit que tu n'étais pas d'accord avec la question du théâtre.
La question du théâtre, oui. Ce qui m'intéressait dans l'invitation qui m'a été faite par Sleep Disorder, qui a Benjamin Laurent Hamann et Marion Hombertin, c'était le KGB, beaucoup, l'espace qui vraiment peut être spécifique à une sorte de cabine d'essayage. Et j'aimais bien qu'on ait une dimension comme ça, un peu de cabine d'essayage. Magasinier, enfin quelque chose qui se rapporte vraiment au magasin, au produit, à la marchandise. Et qui évidemment est peut-être moins noble, plus prosaïque en fait que le théâtre. Par ailleurs, il se trouve aussi que le découpage de la vidéo, c'est vraiment un découpage cinématographique. C'est pour ça aussi qu'on s'échappe un peu de ce qui pourrait être une performance par une artiste. On est vraiment, je pense, dans un langage avec des très gros plans. Et comme une sorte de découpage du corps aussi, qui est plutôt propre à un langage de cinéma. J'aime bien la cabine d'essayage, il y a le rideau du peep show aussi, il y a l'idée de ce qui est caché. Là, ce qui est caché, c'est évidemment ce qu'on voit le plus, d'une certaine manière. L'écran aussi est disposé, il nous surplombe, un peu à la façon d'un écran de vidéosurveillance. Et la dimension de la pièce fait qu'on est comme happé à l'intérieur. Enfin, il y a quelque chose peut-être qui serait presque un peu immersif dedans. Pour ce qui est du théâtre, je sais que c'est des codes qui me sont guère familiers, même si j'en ai fréquenté, j'en ai fait un peu en étant gamine. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment comme ce que peuvent raconter parfois certains cinéastes, c'est-à-dire que faute de moyens, faute de production, faute de casting... aussi parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour transmettre à des interprètes ce qu'ils souhaiteraient qu'ils fassent. Ils le font eux-mêmes parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire le job en quelque sorte. Donc c'est ce que je me suis dit. C'est la deuxième vidéo que je produis où je me mets en scène. Mais bon, c'est plus facile de parler de soi, de la façon dont on se met en scène à la troisième personne. Voilà.
À la fois, c'est très important que ce soit toi, je pense, parce qu'en fait...
Ouais, c'est important. Je pense que c'est comment dire, j'ai un ami qui me disait ça aussi, que le fait que c'est pas mal de sculptures qui se trouvent à l'intérieur de la vidéo, de sculptures ou d'objets, comment dire, trafiqués. C'est moi qui les active. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de. Les objets ont plus une autonomie. Ils sont activés par une sorte de présence, quoi, tutélaire, maternelle. Après, c'est pas la première fois que je mets en jeu mon corps, mais ça me paraissait important d'activer les choses comme ça.
Même parce que, en te mettant en jeu toi-même, sachant que ça parle beaucoup de corps aussi.
Bien sûr, ouais.
C'est assumer que c'est toi qui fais l'expérience de ces choses-là aussi.
Ouais, c'est aussi une expérience, c'est vrai. Je pense que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est qu'on a une espèce de... chose de direct ou de feedback ou d'expérience en fait. Enfin, effectivement, c'est pas de la performance du tout, hein, mais justement, c'est ce que nous permet la caméra et quelque chose qui est plus de l'ordre du documentaire. Enfin, de... C'est-à-dire que les expériences qui se passent, il y a effectivement quelque chose de direct qui vient du fait que, en effet, je filme un bang et en effet, on a filmé à trois. Et le contexte fait qu'on n'est pas dans une modalité scénique. Même si moi j'aime bien cette idée qu'on donne à voir les moyens qu'on a, de façon un peu brechtienne. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui diffère du cinéma, qui diffère du théâtre, qui est de l'ordre vraiment de dispositifs vidéo d'artiste quand on a des moyens très réduits chez soi, avec des objets qui nous sont extrêmement familiers. C'est des gestes familiers qu'on fait aussi, même si ça paraît peut-être un peu artificiel. Mais c'est vraiment ce qu'on va prélever du réel qui est de l'ordre d'une construction. Mais qui n'en est pas moins réel.
Quand je parlais de théâtre, c'était peut-être le fait que toi, toute mon passion et un intérêt très spécifique par le cinéma de genre.
Mm-hmm.
Et que c'est un cinéma qui n'a jamais, soit par manque de moyens, mais je pense aussi par la nature même de ce cinéma-là, de dévoiler à chaque fois l'artifice, de ne pas... Comme on disait... Il y a toujours des accidents qui révèlent qui sont...
Il y a des accidents et j'ai l'impression qu'il y a presque une dimension mal intentionnée aussi de certains réalisateurs que je trouve vraiment formidable. Qui est de l'ordre de... Voilà, je travaille sans moyens dans un contexte spécifique. Je donne à voir mes moyens aussi parce que c'est... Voilà, on adopte une espèce de... Enfin, je veux pas revenir en langage brechtien. On adopte une position vis-à-vis de ces effets qu'on met en jeu, qui sont quelque part valent pour ce qu'ils sont et qui font finalement on sent qu'ils sont habités par quelque chose de d'un peu mal attentionné ou un peu maléfique parce qu'ils se donnent à voir, parce qu'ils cherchent pas à cherchent pas à nous tromper, ils sont là, ils ont vraiment une sorte de valeur une valeur esthétique, ils ont c'est assez trouble je trouve le statut par exemple de l'effet spécial tourné du maquillage quand il est vraiment assumé en tant que tel, enfin c'est il y a une différence évidemment du maquillage de What Happened to Baby Jane, d'un maquillage d'un film de Romero, par exemple. Mais c'est des choses qui m'ont toujours énormément frappée. Enfin, chez Romero, dans Zombie, on a un maquillage qui est quasiment expressionniste. Chez Baby Jane, on a aussi un maquillage expressionniste, mais qui est joué par l'actrice, qui est joué par Bette Davis, qui rejoue un petit peu les codes, pas expressionniste, post-expressionniste, peut-être du cinéma muet dans lequel elle a, voilà, dans la fiction, en tout cas, dans la diégèse du film, évolué. Et je pense que la nature même de ce qui est donné à voir et comment on le donne à voir propose quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience aussi au spectateur. Et on n'est pas seulement dans une convention des effets spéciaux, ben, où on vous fait croire quelque chose.
Peut-être qu'on peut aussi décrire, pour que tu puisses en parler un peu mieux, parce que je l'ai fait de manière très impressive, comme une visite, sans qu'on connaisse tous les détails. Et peut-être que tu pourras m'en parler un peu plus de précisément... Déjà, il y a ce sort de rituel dans lequel ton personnage il est plongé. Est-ce que on suppose effectivement des choses mais tu pourras peut-être.
Ouais, j'aime bien me nourrir de faits réels, de faits scientifiques, d'images documentaires. Je regarde pas mal. Ce que c'est que ces drogues de synthèse qu'on appelle depuis 2016 des zombie drugs, donc on a le Flaca en Floride, qui est alpha PHP, enfin voilà, c'est PCP, pardon. Le Crocodile, plutôt du côté de l'Europe de l'Est, de la Russie, qui est une drogue, une drogue de synthèse qu'on appelle la désomorphine, et qui, et comme leur nom l'indique, un zombie drugs ou zombie héroïne ont une sorte de pouvoir de transformation sur les corps. Et on a insisté notamment avec le Flaca en Floride en 2016 à des tripes qui sont complètement démentielles, où les gens sont à la fois dissociés de façon psychique et où il y a eu des scènes de cannibalisme. Voilà, on ne sait pas trop à quoi imputer ça, mais en tout cas, c'est la mythologie qui tourne autour. Et en ce qui concerne le zombie, c'est une drogue qui produit des escarres, qui conduit à une forme de gangrène. Et on retrouve des sortes de corps qui évoquent évidemment la momification, le zombisme... Je suis tombée aussi de façon un peu fortuite sur cette pétition qui est un peu une blague, enfin un prank quoi, online. En 2017, ou 2018, on a excavé une momie un peu impressionnante. C'était pas au Caire, pardon, c'était à Alexandrie en effet, dans une sorte d'énorme temple de marbre blanc. On a trouvé 6 corps de momie à l'intérieur et qui baignaient dans un jus rougeâtre. Et la pétition circulait expliquant, et c'est la voix qu'on entend au début, qu'il fallait... exploiter de façon industrielle le jus qu'on extrayait de ces momies pour les transformer en une boisson carbonatée qu'on pourrait consommer, ce qui nous permettrait un peu de... d'aspirer un peu la puissance de la momie et enfin mourir. Et j'aime ce fait qu'on retrouve un peu à certains endroits, chez Huysmans notamment dans Horad, où on parle d'une sorte de drogue un peu rêvée comme ça, qui est la pnomaïne, qui est une sorte d'alcaloïde dérivé de corps en décomposition de momies notamment, et qui nous permet d'être défoncés et surtout d'accéder un peu à la mémoire qui se trouve chez les momies, à la mémoire des corps dont ils sont extraits. Et Huysmans parle de bouquets d'ancêtres. Et l'idée d'avoir des drogues qui vont faire une sorte de drogue un peu fictionnelle, bien que je trouve que souvent le réel dépasse la fiction, dans le cas du Crocodile, voilà, il suffit de voir les images pour s'en rendre compte. Qu'on ait une drogue qui soit issue de cadavres et particulièrement de celui de la momie, et qu'il y ait même un alcaloïde qui porte le nom de ptomaine, qui est le nom d'une bactérie qu'on trouve chez les cadavres. Je pense qu'il y a un imaginaire comme ça qui est antérieure, en tout cas, qui m'a permis de comprendre en quoi allait consister, en gros, ce rituel. Qu'est-ce que c'est qu'un banc? Qu'est-ce que c'est que la dessiccation aussi? Un truc qui m'intéresse particulièrement aussi, c'est les liens que peuvent avoir la recherche sur le prolongement de la vie. Des fois, on parle de prolongement de la jeunesse aussi, mais c'est vraiment le prolongement de la vie, que ce soit du côté de la recherche sur le sang ou alors de la cryoconservation. Il y a des liens hyper forts, en fait, en effet, qui se font avec les mythologies du romantisme noir, que ce soit le vampirisme, la vie éternelle, ainsi de suite. Il y a un fait particulier qui m'intéresse, c'est qu'en ce moment, vraiment, l'idée la plus porteuse, c'est que c'est une recherche sur le sang, et que possiblement des transfusions qui se font déjà, je vous rassure, entre des corps adolescents, des corps adultes, des corps de vieux, permettent d'activer un peu les cellules souches des vieux. Et puis, voilà, évidemment, on pense à la comtesse Bathory, on pense à toutes sortes de pratiques comme ça qui sont assez vénéneuses, hein, on a l'idée du vampirisme, on a l'idée de du cannibalisme, ouais, même quelque chose qui serait presque l'heure de la pédophilie derrière tout ça. Et la momie, ça m'est revenu d'une façon assez récurrente, en revoyant un petit peu les corps des gens qui consommaient du flaca, enfin, et surtout du crocodile, qui sont presque des corps de zombies, enfin, de cette manière, voilà, on appelle ça l'héroïne zombie. Et tout ça, c'est un peu concaténé dans ma tête, et puis est venue l'idée, en fait, de cette vidéo.
Desomorphine, known as crocodile for the scaly, peeling skin it produces in its users, is a synthetic opiate that can be readily synthesized from codeine and a few other ingredients. Once injected, crocodile can cause clotting in damaged blood vessels, causing surrounding tissue to die and rot. The skin turns darker, green and scaly. From this, the drug gets its name. Crocodile does not dissolve completely. Its clumps may circulate and do harm to other parts of the body, causing infections in soft tissue, ulcers, and gangrene. The typical lifespan of a crocodile addict is estimated to be about 2 to 3 years.
Ce sont des drogues de synthèse.
C'est une drogue de synthèse. Là, ils expliquent qu'il y a une base de morphine. Des fois, je pense qu'il y a aussi une base de diluant pour peinture. Enfin, c'est hyper syncrétique. Ça s'appelle de la désomorphine. Ça s'injecte. Le flaca, par contre, c'est plutôt des cristaux qu'on fume. Et ça, c'est le flaca, c'est encore une autre composition, ce truc qu'on appelle alpha PVP, PCP, pardon. C'est sensiblement différent. Et les effets sont aussi sensiblement différents, mais... En tout cas, moi, ce qui m'intéressait là spécifiquement, c'était le rapport, parce que c'est une drogue de fiction aussi, donc ça va chercher un peu à droite à gauche, à l'inhalation. Il y a l'idée de la pipe à eau. Le fait qu'on peut avoir quelque chose de liquide, un petit peu comme le jus de momie, en tout cas, qui est une sorte d'opération physique. Là, c'est l'évaporation, quoi. Et c'est l'idée que ce qu'on inhale est filtré par ce jus de momie. Donc ça, il y a quand même encore une sorte de... Il y a un filtre, en tout cas, qui est présent entre la fumée, le liquide. Je pense que ça témoigne d'une espèce d'opération chimique, d'opération, je sais pas, on parle de sublimation physique, c'est pas tout à fait le cas, là, parce que c'est pas de l'évaporation, mais...
Quand tu dis drogue de fiction, c'est parce qu'elle est d'abord diffusée par Internet comme une sorte de mythologie, comme une rumeur, comme une...
C'est assez compliqué, je pense. Parce que là on parle de drogues différentes, hein, vraiment de façon pragmatique. Et je m'inspire de deux drogues. L'aptomaine, c'est une drogue de fiction chez Huysmans. Celle qu'on invoque, pardon, dans la vidéo, c'est encore une drogue de fiction. Mais ça revient à l'idée, qui est une idée un peu vampirique, de consommer le corps de la momie. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a quelque chose de presque syncrétique transgenre. On va évoquer à la fois des momies, enfin invoquer des momies, invoquer des vampires, et une opération de vampirisme, mais qui s'apparente aussi à comment est-ce qu'on fume une chicha, etc. À donc une façon de consommer de la drogue qui n'est pas inhaler, brûler un cristal dans un papier alu, c'est pas non plus tout à fait s'injecter, c'est mettre sa bouche en fait sur une sorte de pissoir féminin, enfin ce qu'on appelle en langage hospitalier le pistolet. Là, c'est un objet récupéré qui est en verre moulé transparent que j'ai percé et qui ressemble à une sorte de haricot. L'ouverture est beaucoup plus large que d'habitude parce que je pense que c'était fait pour les femmes, donc c'est comment dirais-je, ça s'adapte à la morphologie d'un vagin. Et du coup, je lui ai rajouté des sortes de lèvres, en silicone, pour que ça puisse faire ventouse. Voilà. Et il y a un trou à travers lequel circule une sorte de pipe en verre, qui est pareil, une pipe qu'on utilise en chimie. Enfin, voilà, c'est des déchets de... Enfin, c'est du matériel chimique que voilà, je récupère aux puces ou dans la poubelle. Il y a une clope qui brûle là-dedans. On inspire, la fumée de la clope est filtrée à travers le jus de momie.
Parce que souvent dans ton travail, il y a cette question de la prothèse, de la non-opposition entre biologique, corps, technologique, prolongement technologique du corps, enfin augmentation du corps.
Ouais, il y a plusieurs prothèses. Je pense qu'il y a, il y a les prothèses de cornes qui sont des ongles dans le film. Il y a beaucoup de nails. Voilà, on a même passé une journée à les fabriquer, à les polir, à les patiner. Avec Lorraine qui est présente dans la salle. C'est à la fois, je pense, des griffes, des prothèses, et à la fois peut-être l'ongle taillé qu'on pouvait voir dans un gros plan publicitaire, peut-être, je sais pas, dans un catalogue des années 70 ou 60. Donc il y a quelque chose encore aussi un peu dans la prothèse qui est syncrétique. Mais c'est vrai que c'est des appareillages qui, même esthétiquement, voilà, qui m'intéressent. Et là, c'est vrai qu'on a une sorte de bang. Dans le bang, il y a aussi une espèce de... Je ne sais pas, ça ressemble à un fluto, ça ressemble à un objet de chimie qu'on utilise aussi comme porte-cigarette. Je pense que c'est des choses qui sont... En tout cas, dans le cas des ongles, c'est hyper important parce que ça permet aussi de... Bah, ça implique une gestuelle qui est spécifique et qui est extrêmement contraignante aussi.
Forcément qu'on pense, je l'ai dit dans mon texte de départ, mais... Il s'agit d'une femme, évidemment. Et en même temps, il y a quelque chose qui est au-delà du genre, je pense. Mm-hmm. Mais on ne peut pas s'empêcher, tout le monde en parler, c'est un texte qu'on va écouter par la suite, mais qui parlait de la monstruosité féminine. Et c'est vrai que tu adoptes et une posture physique et de l'ordre de l'excès. Mm-hmm. Qui fait que ça dépasse ces archétypes. Mais j'ai l'impression que tu les utilises. Voilà. Quand on parle d'ongles, quand on parle de précisément cet outil dont tu parles, qui ont pistolet pour femmes, il y a quelque chose, effectivement, de l'excès qui déborde des archétypes féminins, mais à la fois, comment dire, je pense que c'est cette position... Historiquement, dans les films, dans l'histoire du cinéma, de la littérature, les femmes qui étaient toujours dans une zone marginale des archétypes féminins, de la sorcière, mettons, enfin, mais surtout là, pour le cas qui nous intéresse, le monstre, la déformation, la défiguration du visage, ce sont des...
La foi aussi, ouais.
Ce sont des zones qu'on ne considérait pas forcément comme... ce sont des zones d'exclusion des stéréotypes et des archétypes même.
Ouais, je pense que... voilà, on va parler peut-être du texte de Creed, de Barbara Creed. Ce qui m'intéresse dans son texte, c'est qu'elle-même parle de cette manière de son champ d'intérêt, qui est celui dans le cinéma d'horreur moderne, peut-être. Et on va parler un peu de l'exorciste, de figures lors du féminin monstrueux, qui sont actives, hein, qui sont pas passives, qui sont pas l'éternelle victime, mais qui sont au contraire et qui sont voilà, qui sont profondément actives, qui peuvent être à la fois des psychopathes. Il y a toute une sorte de typologie de femmes hyper intéressante, et on pense notamment à la gamine de l'exorciste, qui est une espèce d'être prépubère comme ça, prémenstruel, et en même temps, en tout cas, il y a quelque chose qui le rattache vraiment au continent maternel et qui va articuler un truc avec l'abject, avec toutes les déjections physiques, le pu, la morve, le sang des règles, les vomissements, une espèce de chair cadavérique aussi. Toutes ces manifestations, bon voilà, après moi je parlerai très mal de Kristeva, mais ce qu'elle dit un peu dans le texte de Creed, c'est que ça s'apparente à quelque chose qui est de l'ordre... qui dépasse un petit peu la loi du père, quoi, qui est plutôt du côté de la loi maternelle. Et d'un lien possible à la maternité. Et moi, j'ai, enfin, en tout cas, j'ai un intérêt, je pense, pour cette matière-là. Enfin, pour ce que ça dit, en fait, de la redistribution d'une frontière, quoi, entre mort et vivant. Puis même un intérêt, je sais pas, c'est une matérialité qui est intéressante, je trouve. Enfin, même d'un point de vue, je sais pas, sculptural, esthétique.
C'est peut-être l'occasion d'écouter.
Ouais, Creed.
Ou alors, parce que toi, le film, là, te parle de mer. Mm-hmm. Tu as peut-être l'extrait de film The Broad. Ouais.
Yes, Candace. Yes, sweetie.
Mommy, you hurt me. You hit me with your fists and you scratched me with your nails. You hurt me.
No, I didn't, sweetie. You must have had a bad dream. Mummies don't do that. Mummies don't hurt their own children.
They don't. They never do. They never do.
Sometimes do. Sometimes, then they're bad mummies. They're fucked up mummies.
Like whose? Like whose mummy?
Mine was fucked up and bad.
C'est un extrait de quel film?
C'est The Broad de Cronenberg. La séquence où Oliver Reed, qui incarne le psy dans une sorte de clinique expérimentale planquée dans les forêts, fait une séance un peu spécifique, parce que je pense que ça s'inspire de plusieurs pratiques analytiques différentes. Mais il réénacte une sorte de moment de violence où il incarne à la fois la fille de sa patiente et lui demande d'invoquer sa mère, qui est une forme de violence contre sa mère qui va activer des sortes de créatures un peu placentaires, enfin pas placentaires, comment dirais-je, ectoplasmiques. Ce sont des sortes d'enfants ectoplasmiques qu'elle produit dans un utérus extérieur. Et qui vont aller assassiner son père et sa mère dans la vraie vie. Voilà.
Il faut imaginer que c'est celui qui fait son fils ou sa fille est plus âgé.
Ouais, c'est Christopher Reed au summum de sa gloire. Hein. Donc il a 55 balais.
À la fois, quand je pense au titre.
Oliver Reed, pardon.
Au titre de ton exposition, cette question de la mère.
La mère et la momie, ouais, c'est vrai qu'en effet, on dit mommy pour désigner la momie et, ouais. et la mère, quoi, en anglais. Mom.
Et du coup, c'est ces archétypes encore de féminin que je pense que tu... Parce que là, c'est pas du tout de la question de la maternité, c'est...
Non, c'est archétypal, effectivement. Et d'ailleurs, c'est comment dirais-je, tout ça est bien exprimé visuellement quand on voit... c'est pas des momies, hein, c'est des empreintes qui ont été produites par Pompéi. Je pense qu'on a, on a des figures comme ça de femmes à l'enfant qui sont momifiées, en tout cas qui sont figées à un moment donné. Il semble qu'il y en a une qui donne naissance, il y en a une qui est figée au moment de son accouchement par un volcan, il me semble que c'est Pompéi, et puis des femmes à l'enfant qui sont figées sous la forme d'une momie. Et donc, la momie m'a toujours apparu, m'est toujours apparue comme étant une figure féminine. De toute manière, c'est féminin en français, effectivement. Mm-hmm.
Tu vois à la fois l'image de la figure de vampire, qui est peut-être un peu plus romantisée par la littérature, mm-hmm. par le cinéma maintenant. La figure de zombie, que là, pour le coup, je pense...
C'est compliqué, c'est une figure qui est plus prolétaire, je pense. Après, effectivement, il y a le... Voilà, il y a la figure du zombie caribéen, enfin, pour son vaudou haïtien, etc. Vaudou africain qui diffère encore du vaudou brésilien qui est très syncrétique, etc. Mais effectivement, la figure du zombie revient, je pense, au cinéma, un peu avant Tourneur d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'il y a un film primitif qui parle de zombisme. Après, il y a I Walk with the Zombie, et ensuite, on est chez Romero, quoi. Donc, on est dans un cinéma qui va utiliser la figure du zombisme, comme. Dans le premier zombisme, c'est vraiment les droits civiques, ensuite c'est la société de consommation, après c'est le complexe militaro-industriel. Donc le zombie est une figure plutôt prolétaire, contrairement au vampire qui est une figure vraiment aristocratique, quoi. Oui. Le zombie, de toute manière, c'est assez curieux parce que c'est vraiment c'est un masque. C'est-à-dire que c'est une figure qui va réussir à pénétrer ou qui va être instrumentalisée, voilà, par différentes idées et ça qui va être le porteur de quelque chose. Donc c'est finalement une figure en creux. La momie, c'est encore autre chose. C'est vrai qu'on a eu une momie mania au 18, 19e siècle. C'est intéressant d'ailleurs parce que ça correspond aussi à des faits scientifiques, à savoir des faits scientifiques qui concernent la conservation des corps. On a des technologies au cyanure qui se développent au 19e siècle. On commence d'ailleurs à utiliser ces traitements, à organiser des concours d'ailleurs entre diverses méthodes scientifiques pour conserver les chairs de la façon la plus précise, la plus sensuelle possible. Beaucoup de céroplastie, on utilise des cires avec des sortes de métaux lourds comme ça, qui vont donner des teintes plus ou moins chatoyantes. On pense voilà, au cimetière des Capucins à Palerme, même à la conservation de certains corps de saintes dans des chapelles. Moi, ce qui m'intéressait aussi dans cette figure de la momie, c'était le lien, évidemment, avec la cryoconservation. Et quand on interroge un petit peu des gens qui viennent du domaine des sciences et qui sont dans cette niche-là spécifiquement, c'est que finalement, la cryoconservation, c'est impossible, mais c'est aussi une énorme supercherie. C'est-à-dire que je pense qu'il y a cette idée aussi que la recherche pour le prolongement de la vie a besoin de sommes absolument considérables pour avancer. C'est pas pour rien voilà, que c'est alimenté financièrement par les GAFA, par Amazon, etc. Mais finalement, personne n'en a rien à branler des morts. Et si on avait peut-être 50 milliards de dollars à balancer dans les années qui viennent pour ramener à la vie des corps, les quelques 400 corps qui ont été cryoconservés avec, en gros, du liquide de refroidissement, je ne pense pas qu'on les investirait à cet endroit-là, évidemment. Parce qu'on s'en fout, effectivement, de ranimer ces 400 corps qui nagent dans des bassins cryogéniques au Texas, en Chine, en Russie.
Tu me parlais de cette sorte de momia qui était...
De momia c'est une substance pharmaceutique qui existe depuis toujours, en quelque sorte. C'était aussi utilisé en peinture. C'est du noir, une sorte de noir un peu charbonneux. Du noir de bitume qui est extrait de la même zone. On extrayait le bitume qu'on utilisait en momification en Égypte, pendant l'Égypte ancienne. C'est aussi une substance médicinale qui consiste en une sorte de miel extrêmement dur, extrêmement rance, qui est presque momifié, qui avait des vertus énergétiques qu'on donnait aux enfants un peu malingres, un peu rachitiques. Donc il y a l'idée quand même qu'il y a une force vitale à l'intérieur de la momie. Ce qui nous rapproche un petit peu de la figure du vampire, en fait.
Oui. Et qu'à la fois, tu me parlais aussi du jus de momie, de la manière de comment...
Comment on l'extrait.
Ouais. Et de la mythologie qui s'est développée...
Sur Internet, tu veux dire? De cette espèce de pétition là, qui rappelle un peu un mème.
Et qui à la fois devient un fantasme, du coup, qui ça existe.
Oui, ça existe. Enfin, en effet, on a exhumé des momies qui baignaient dans du jus rouge. Et le jus, évidemment, rempli d'endospores qui sont extrêmement létales. Enfin, je veux dire, il y a des bactéries à l'intérieur qui ne seraient pas extrêmement conseillées de consommer.
Mais je veux dire, par là que la fiction autour de ça, elle prend la force d'une vérité.
Oui, absolument. Ouais. Je pense qu'il y a une sorte d'effet en miroir, comme ça, une sorte de symétrie, en fait, en tout cas. Même de ce qui est de la recherche autour des technologies de prolongement de la vie avec des objets fictionnels qui sont hyper repérés, qui sont issus notamment du romantisme noir, enfin qui sont aussi antérieurs, qu'on trouve un petit peu dans des mythes alchimiques, mais qui sont excessivement présents.
Cette figure de la femme, pour qu'on fasse le pont peut-être avec des textes dont on va parler après, cette figure de la femme que tu incarnes, elle est à la fois, on peut croire effectivement qu'elle est sous substance, qu'il y a quelque chose qui, à la fois on peut croire qu'elle accomplit un rite, on ne sait pas, qu'elle est dans une forme de transe, mais c'est, elle interroge en tout cas violemment la manière comment, ce qui change aussi que ce soit une femme derrière la caméra. Mm-hmm. La manière comment toi-même, du coup, tu traverses l'expérience que tu proposes, que tu nous proposes comme objet de réflexion. Tu te distingues pas, en fait, du coup, de la personne.
Personne qui est derrière la caméra ou de la personne qui est devant?
Vu que c'est toi qui signes le film, je pars, je pars du principe que tu es des deux côtés, mais, mais disons que c'est une manière de pousser, je pense, parce que tout intéresse aussi à ces questions d'androgynie, de abolition de genre éventuellement.
Enfin. Ouais, c'est des choses qui m'intéressent profondément, je pense. Enfin, profondément, ça m'intéresse d'une façon qui me dépasse peut-être, dans le sens où c'est... Comment dirais-je ? J'ai pas une position active vis-à-vis de ça. Et j'ai l'impression que ça, peut-être que ça infuse un peu voilà, le travail que je fais. Mais je sais pas très bien me positionner vis-à-vis de ça. En tout cas, on peut peut-être parler du traitement qui est fait à la voix là-dessus. Mmh. Et à la figure aussi qui évoque un peu une sorte de housewife, dans le costume en tout cas, les ongles aussi, housewife de spot publicitaire. Et pour en revenir aussi à la voix off, parce qu'on a deux typologies de voix, on a une voix in, une voix off, c'est la même voix, et c'est une voix qui est un peu androgynisée du fait du pitch. En fait, la voix est extrêmement... Elle n'est pas ralentie, elle est pitchée, plus grave. Et ça, je dirais que c'est pas que c'est la question du genre, évidemment, et derrière le genre, voilà, il y a aussi la question de l'identité. À savoir que la déformation de la voix, c'est un petit peu comme la brûlure de la peau, c'est quelque chose qui contient énormément, qui encapsule beaucoup d'éléments identitaires, la voix. Quand elle est détruite, on voit ça aussi dans le Phantom of the Paradise de De Palma, ou encore dans La Mouche de Cronenberg, la destruction de la voix est pas moins importante que celle du corps. Parce que...
Et la peur que ça déclenche.
Ouais, la peur que ça déclenche. Parce que c'est une voix androgyne aussi, qui finalement n'est pas assignable. Enfin, elle l'est beaucoup moins, en tout cas, qu'une voix stricto sensu féminine ou masculine. Et c'est ce qu'on appelle une voix monstrueuse, en fait. Voilà. Ce qu'on appelle une voix monstrueuse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reconnaître son timbre, on ne peut pas savoir si c'est un timbre féminin ou un timbre masculin, donc on classifie ça dans une sorte de marge, quoi.
C'est peut-être l'occasion de passer l'extrait des Orcistes, peut-être, on dit quoi ? Parce qu'elle précisément, elle passe dans cette... Ouais. On entend sa voix qui se transforme ?
Non, mais on entend sa voix transformée.
Your mother's in here with his curse. Would you like to leave a message ? I see that she gets it.
If that's true, then you must know my mother's maiden name. What is it? What is it?
On a écouté un extrait de L'Exorciste, mais c'est vrai que...
L'Exorciste de Friedkin, 1973. Donc c'est vrai qu'il y a... Il y a vraiment cette image de la voix dégénérescente. Après, L'Exorciste de Friedkin, évidemment, Friedkin, c'est un cinéaste A. C'est pas du tout un cinéaste B. La preuve est qu'il a coulé une boîte de prod après Sorcerer, en quelque sorte. Ça diffère beaucoup du... Disons que c'est aussi l'idée que l'horreur arrive dans le cinéma mainstream, avec une figure qui est vraiment une figure du monstrueux féminin dans le cinéma mainstream. Et donc ça, c'est presque une sorte de statement politique, en quelque sorte. C'est vrai que je me suis longtemps intéressée au cinéma B, au film B. J'aime pas B, parce qu'il y a Z aussi. Enfin, c'est des catégories qui sont très distinctes, qui sont pas forcément poreuses. Mais il y a un cinéma de genre qui flirte avec un cinéma d'exploitation, qui, dans le cadre du giallo italien, se fait dans les mêmes studios, à savoir Cinecittà, le cinéma A, partage les mêmes techniciens, et produit, opéré, écrit, dessiné, pensé, filmé par des gens qui sont des formalistes immenses, par exemple comme Lucio Fulci. Et c'est vrai qu'il y a une dose de transgression qui est absolument exceptionnelle. C'est les gens aussi qui étaient plus formalistes que scénaristes. Donc, en ça aussi, on s'éloigne d'une forme de production, en tout cas d'une grammaire cinématographique qui est hyper, comment dirais-je, presque déconstructionniste, je sais pas, déconstructiviste postmoderne, quoi. Enfin, j'aime pas ce mot de postmoderne, mais on pourra le couper après.
Tu veux dire par là que ce sont des films que de par du fait même de leur manque de moyens, éventuellement aussi parfois du manque de talent, parce que c'est aussi de la manière comment nous, on se les approprie, en fait. Mm-hmm. Au-delà des intentions de cinéaste ou pas, enfin, c'est ça qui est
trouble. Ouais, je pense que le manque de quelque chose... Bah, alors, c'est pas le cas de Fulci, parce que Fulci, c'est différent, c'était vraiment une espèce de mage noir. Je pense que Fulci, c'est pareil, c'est un personnage maléfique, donc on le met peut-être un petit peu à gauche de tout ça. Mais il y a un manque, que ce soit dans la production, manque de talent aussi. Enfin, il y a le film raté, qui est vraiment... qui est un film de premier degré. Nous, on se le réapproprie au second degré, évidemment. Et en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire aussi, c'est plus un objet maléfique, dans le sens de Fulci, qu'un film qui va se réfléchir ou voilà, qui va réfléchir un peu ce que c'est que le cinéma B. Mais ce que j'apprécie, en tout cas, dans certains films de genre ou films d'exploitation, parce que je pense que Fulci est plutôt du côté de l'exploitation, comme il y a du sexe et de la violence, il va pouvoir faire passer des choses qui sont extrêmement expérimentales, qui ont eu un contenu politique qui tourne autour évidemment des années plomb pendant lesquelles ces films ont été tournés, proto-marxiste, qui est compliqué à articuler, je pense, dans un cinéma d'exploitation, mais qui fait quand même. Il y a un tel chose qui sont presque engrammées dans son cinéma. Il y a une sexualité vénéneuse, mais où la femme est à la fois sujet et objet. C'est hyper trouble. Enfin, il y a justement une sorte de redéfinition comme ça de la position de la femme à l'intérieur de ces films. En même temps, c'est des films d'exploitation. Et donc, il y a du cul, il y a de la violence, etc. Il y a des choses extrêmement venimeuses. Mais ça dépasse un seuil qui est pas décent, enfin, qui n'est pas politiquement correct, ainsi de suite.
Et qui, à la fois, permet de montrer des choses que le cinéma ne pouvait pas montrer.
Ouais. Par exemple, le plan d'horreur. Bah, après, tout à l'heure, on revoyait un extrait aussi de Day of the Dead de Romero, celui qui parle spécifiquement du complexe militaro-industriel, où là, on a une vision d'horreur sociale qui n'est pas incarnée par les zombies qui ont réveillé le monde, mais qui est incarnée vraiment par le complexe militaro-industriel. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une base de barbouzes enterrées sur terre, sous terre, excusez-moi. Une femme fait de la recherche, c'est la seule. Et évidemment, elle est, comment dirais-je, maltraitée, elle est constamment agressée, harcelée par tous les militaires de la base. Et elle est à la fois la victime, mais surtout le modèle. C'est-à-dire que c'est elle, finalement, la personne humaine du futur. C'est vers un schéma comme le sien qu'on cherche à tendre. Et évidemment, et l'horreur, comme je disais, c'est pas les zombies, l'horreur, c'est une espèce de milieu patriarcal, agressif... phallocentré, quoi, des militaires, quoi.
Et à la fois, dans
l'extrait qu'on voyait, effectivement, elle coupe un bras et elle le brûle. Et il y a un gros plan sur le moignon en train d'être brûlé.
Ce qu'on ne montrait jamais.
Et cette femme, c'est pas non plus une femme virile, c'est pas non plus une femme de pouvoir. Mais ouais, ce qu'on montrerait pas dans le cinéma.
Dans ce qu'on montrait pas, il y a l'abject, évidemment. Il y a la sexualité, la pornographie. Et il y a aussi peut-être la folie, d'une certaine manière. C'est quelque chose qu'on... Il y a beaucoup de films, Cassavetes, d'autres qui abordent la question de la folie, évidemment, et qui le font avec force, mais des films qui portent en eux cette sorte de folie, en fait. Tu vois, parce que moi, en regardant ton film et ta proposition, ton exposition, il y a quelque chose qui trouble aussi le fait qu'on sente que cet espace est contaminé par...
Claustrophobique.
Il est contaminé par cette présence dans le film. Il est hanté, il est... En même temps, on voit tout. Il n'y a pas de... Enfin, il y a des présences... ça ne joue pas sur ce qu'on ne comprend pas. Enfin, mais comme si il était contaminé quelque part. Tu vois, quelque chose... comme si toute l'histoire avait laissé que la folie... Elle n'était pas en sujet, mais plutôt qu'elle prenait possession, tu vois, un petit peu des objets, des corps.
Je pense qu'il y a peut-être une dimension de rituel, en tout cas, dans les objets. Après, la transe, pour moi, c'est aussi quelque chose qui est collectif. Après, c'est un bang, donc à un moment donné, on est défoncé. Et voilà, quand on s'en colle plusieurs d'affilée, effectivement... et c'est peut-être des choses qui transparaissent dans le regard. Enfin, après, moi n'étant pas interprète, c'est quelque chose dont on fait expérience, on en parlait très bien tout à l'heure. Un truc qui est habité, je pense que aussi, Ben voilà, on sait qu'il y a des drogues qui dissocient, qui nous mettent à distance de nos corps. Ouais, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, de la dissociation psychique, je sais pas, en tout cas, d'une dissociation qui se produit. Je pense aussi qu'il y a, et c'est quelque chose qui est intéressant, qu'on voit beaucoup dans un cinéma expérimental, c'est que c'est les moyens même aussi du cinéma qui créent un peu cette dissociation, enfin du montage, des plans de coupe. C'est quasiment un film où on n'a que des plans de coupe, où on a... C'est quelque chose que... Pardon, je reparle encore de Giallo, mais ouais, c'est un corps disséqué. Il y a une sorte de typologie de plans un peu symbolique qu'on utilisait aussi dans le Giallo, qu'utilisait Fulci, par exemple, ou des images, ouais, presque une valeur archétypale, quand on les voit, et qui vont mettre en condition psychique. Après, voilà, ça, c'est pas la ciné-trans, hein, mais ouais, c'est une dimension qui m'intéresse, en tout cas, le fait que on peut être dans des états de conscience modifiés en consommant des drogues, en consommant des films. Il y a certains objets qui, en tout cas, qui sont habités par peut-être...
Et on a commencé par cet extrait de film où il y avait cette sorte de jeu de rôle entre le psychanalytique avec la question de la mère. Et peut-être que ça serait bien qu'on... Parce que ça, s'il y a de la monstruosité, évidemment, comme on a déjà dit, quand on écoute...
Creed,
Barbara Creed, cet extrait...
The horror film is populated by female monsters, many of which seem to have evolved from images that haunted the dreams, myth, and artistic practices of our forebears from many centuries ago. The female monster, or monstrous feminine, wears many faces, from the immoral primeval mother from Alien, 86, the vampire from The Hunger, 83, the witch from Carrie, 76, the woman is monstrous womb in The Brood, 1979. A woman bleeding wound as in Dressed to Kill, 1980. A woman as possessed body in The Exorcist, 73. The castrating mother from Psycho, 1960. A woman is beautiful but deadly killer in Basic Instinct, 92. An aged psychopath in Whatever Happens Baby Jane, 62. The monstrous girl boy in Reflection of Fear, 73. A woman is non-human animal in Cat People, 42. Or a woman as life and death, Life Force, 85. Or a woman as the deadly femme castratrice in I Spit on Your Grave, 78. Although a great deal has been written about the horror film, very little of that work has discussed the representation of woman as monster. Instead, emphasis has been on woman as victim of the mainly male monster. Why has woman as monster been neglected in feminist theory and in virtually all significant theoretical analyses of the popular horror film? After all, the image is hardly new. All human societies have a conception of the monstrous feminine, of what it is about woman that is shocking, terrifying, horrific, abject.
C'est un texte de Barbara Creed qui a été publié en 93 par Routledge à Londres, qui s'appelle The Monstrous Feminine, Film, Feminism, Psychoanalysis. Donc on en a lu un extrait antérieurement, où elle cite une typologie de femmes monstrueuses, de femmes d'incarnation du monstrueux féminin à travers différents films, qui sont des films, voilà, il y a d'époques variées, il y a à la fois un tourneur, comme on a aussi Basic Instinct, évidemment. Pour en revenir peut-être à la question du romantisme noir, qui, je pense aussi, est une période littéraire matricielle pour ce cinéma spécifique, qui est le cinéma de genre, le cinéma d'horreur. Il y a aussi, au sein de cette matrice, une autre figure matricielle, une figure tutélaire, qui est évidemment celle de Mary Shelley, avec Frankenstein, et qui est une femme qui elle-même déjà est fascinée aussi par la science, par l'électricité. Et je pense que des phénomènes qu'elle a dû observer soit en foire, soit dans les cabinets de furiosité, elle réinjecte ça aussi à l'intérieur de sa fiction.
Et que du coup c'est quelque part un homme qui engendre
un autre homme, ouais. Ouais.
Et à la fois une créature qui n'est pas... On parlait de zombies au tout début.
Créature qui excède les genres, tu veux dire ?
Moi, je dirais surtout qu'il excède le rapport entre...
De classe ?
Les binérismes qu'on établit parfois entre vivant,
non-vivant, organique.
parce qu'il est activé. Organique, synthétique,
ouais, ouais, ouais. Mais je pense que ce, bah, c'est des choses que j'essaie de dépasser, en tout cas dans mon travail. Je pense que c'est ce rapport, comment dirais-je,
entre objet, sujet.
Ouais, c'est gros dualisme antinomique, etc. L'idée, c'est de dépasser ça. Parce que je pense qu'on est déjà dans un état de choses, de fait, où tout ça est un petit peu dépassé. On est en train de... Le genre, ça, c'est, je pense que c'est très complexe, c'est des temporalités qui sont pas archéologiques, mais on est dans une volonté de dépasser tout ça. En ce qui concerne notre rapport à la tech, évidemment. Et puis le rapport aussi du virtuel au réel.
Tu veux dire que la question de cette opposition qu'on établissait longtemps entre organique, technologique,
organique et technologique, naturel. Ouais, ou entre masculin et féminin, ou l'idée même que la technologie est masculine, tout nous prouve à penser le contraire, Daraway a plein de faits historiques aussi, en effet, la technologie est ontologiquement féminine.
Virtually all horror texts represent the monstrous feminine in relation to Kristeva's notion of maternal authority and the mapping of the self's clean and proper body. Images of blood, vomit, pus, shit, etc. are central to her culturally, socially constructed notions of the horrific. They signify a split between two orders, the maternal authority and the law of the father. On the one hand, these images of bodily waste threaten a subject that is already constituted in relation to the symbolic as whole and proper. Consequently, they fill the subject, both the protagonist in the text and the spectator in the cinema, with disgust and loathing. On the other hand, they also point back to a time when a fusion between mother and nature existed, when bodily wastes, while set apart from the body, were not seen as objects of embarrassment and shame. Their presence in the horror film may invoke a response of disgust from the audience situated as it is within the social symbolic, but at a more archaic level that the representation of bodily waste may invoke pleasure in breaking the taboo on filth, sometimes described as a pleasure in perversity, and a pleasure in returning to that time when the mother-child relationship was marked by an untrammeled pleasure in playing with the body and its wastes. In Carrie, the film's most monstrous act occurs when the couple are drenched in pig's blood, which symbolizes menstrual blood in the terms set up by the film. Women are referred to in the film as pigs. Women bleed like pigs, and the pig's blood runs down Carrie's body at a moment of intense pleasure, just as her own menstrual blood ran down her legs during a similar pleasurable moment when she enjoyed her body in the shower. Here, woman's blood and pig's blood flow together, signifying horror, shame, and humiliation. In this film, however, the mother speaks for the symbolic, identifying with an order which has defined woman's sexuality as the source of all evil and menstruation as the sign of sin.
Voilà. Elle parle beaucoup d'organicité, de body waste, de déchets,
ouais.
d'abjection.
Ouais.
Mm-hmm. Qu'il y a quelque chose dont tu sais utiliser le potentiel dans ton travail.
Après, je pense qu'il dit quelque chose aussi du rôle du spectateur qui est intéressant. Il parle dans Carrie du fait de cette scène qu'on connaît bien sous la douche avec les règles qui coulent et les autres nanas qui lui balancent des tampons, de retourner à une sorte d'état de plaisir que, je sais pas, qui doit correspondre à celui de l'enfant en bas âge, du nouveau-né, avec le corps de la mère indifférencié, où il joue avec sa merde, etc. Il y a une sorte d'état archaïque comme ça, dans lequel place le film en tant que spectateur, qui est trouble. Évidemment, moi je fais les choses différemment, c'est distancié. En tout cas, on n'a pas le même rapport vis-à-vis d'un objet filmique, scénarisé, hyper immersif, que vis-à-vis d'une vidéo. Évidemment, on a plus de distance, pour le meilleur et pour le pire. C'est pas la même chose. Mais en tout cas, j'entends ce que dit Creed là-dedans, et c'est quelque chose qui m'éclaire un peu. Quoi.
Et ce qui te permet aussi d'avoir de la matière pour créer toi-même des formes qui prolongent.
Essayer de rompre un peu, tu veux dire, avec cette dualité, quoi.
Oui, pour des objets que t'actives aussi.
Ouais, que j'active, qui ont une organicité. Après, je pense que c'est vrai que ça reprend un petit peu ce qu'on disait tout au début de notre entretien, où les objets semblent exister par eux-mêmes. Non, ils sont activés, ils sont organicisés. C'est l'idée, je pense, aussi de l'animation. C'est les questions qui m'intéressent dans le mort-vivant, dans cette chair morte qui continue à exister après sa mort. J'avais lu un article scientifique qui s'appelait « La mort, le cadavre en substance », où on explique que c'est un fait organique, hein, les chairs continuent à évoquer la vie tant qu'elles puent. Et ça, c'est un scientifique qui a passé un peu de temps, qui a utilisé comme terrain de recherche la thanatopraxie, la médecine légale. On accorde de la vie à l'organique tant qu'il se manifeste encore auprès d'un des sens, et là, en l'occurrence, l'olfaction. L'idée que toute substance est animée par quelque chose, par un principe de vie. Et c'est ouais, évidemment quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ces pièces. Là, c'est moi qui les active, elles ne s'activent pas toutes seules. Mais je pense que ça établit peut-être ce lien, en fait, que les pièces ont une origine.
Qui ont une sorte d'autonomie, en fait, ouais. Aussi, par rapport à...
Ben là, en fait, elles ont une autonomie, certes, mais je dirais que le geste de les activer...
Oui. Dans le film.
Dans le film, dans la vidéo, montre que... qu'elles ont été créées par quelqu'un. Il y a quelque chose au-dessus. Je pense que c'est contraire, justement, à cette idée d'autonomisation, même si ça la rejoint d'une certaine manière.
Dans le film, je suis entièrement d'accord, ça prolonge le corps aussi. C'est comme...
Ça prolonge le corps, oui, parce qu'il y a cette dimension de prothèse, effectivement.
Dans la forme même.
Dans la forme même, dans le fait que ça s'adapte à des corps, dans le fait même qu'ils aient un usage. Les objets que je produis sont souvent... c'est pas du tout de l'ordre du design, mais ça, je pense que ça questionne les usages, qu'il s'agisse... d'une baignoire, qu'il s'agisse d'une sorte de recomposition d'écran à partir de matériaux, de déchets d'écran pour certains, dans le fait que c'est souvent aussi cette dialogue avec de la vidéo, que ce soit une sculpture vidéo ou un dispositif. Y a la question de l'usage.
Et que le design, disons, des objets découle des gestes, souvent. Donc,
ouais, ou en tout cas, contraignent les gestes ou on en découle, aussi, effectivement. Ouais.
Wouldn't it be cool if someone took a global leader in anti-aging and broke the mold? If someone took our best-selling products, backed with science, and kept its DNA, evolved it into everything any health product could dream to be? What if it could restore the body at the cellular level and fight premature aging, cleanse, rejuvenate, increase daily energy? Yeah, that would be cool. Introducing the reimagined and more evolved youth enhancement system the world has ever known. Jeunesse, we are redefining youth.
Jeunesse, redefining youth. C'est effectivement une vraie pub, et je tenais à montrer cet extrait parce que moi aussi je me retrouve parfois dans la position du réalisateur de série Z, à savoir comment est-ce qu'on va évoquer ces questions de post-humanisme avec un budget qui est environ de 5 euros pour chaque production. Donc comment faire ça? Par le biais de la fiction. Et c'est comme ça que je décide de fictionnaliser un petit peu les objets que je fais, non pas de suivre des protocoles qui impliqueraient que j'ai un labo derrière moi et que je peux moi-même avoir des transfusions de sang adolescent.
Dis-moi seulement, Jeunesse, cette marque, il s'agit de quoi? D'une entreprise qui propose...
C'est une entreprise qui propose des produits de beauté, des crèmes, des masques pour la peau.
Dont le message, on va dire, qui va jusqu'à... qui va dans le sens d'une idée de prolongement de la vie, presque.
Oui, absolument, il y a une concomitance énorme entre la recherche prolongement de la jeunesse, prolongement de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des cures qui sont plus high-end, comme celle qui consiste à se faire transfuser du sang d'adolescent. Et il y a des cures qui sont plus accessibles au public, qui consistent à avoir des crèmes qui contiennent des cellules souches, évidemment.
Et moi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ta démarche, c'est le fait que ce soit, par exemple, la chirurgie esthétique, le maquillage, la cosmétique, ou d'autres sujets, que ce soit, par exemple, l'engagement même de ce spot publicitaire, ou alors un débat plus large qu'il a le transhumanisme qui déclenche immédiatement, qui est immédiatement posé sur un terrain moral, où il y a beaucoup de... Évidemment que ça déclenche des questions... éthique, des questions morales. Mais ce qui m'intéresse chez toi, c'est que ça ne se passe pas à l'endroit... C'est comme si, avant de te prononcer sur ces sujets, tu suspendais un jugement pour pouvoir peut-être mieux disséquer, mieux regarder, mieux comprendre quelle mécanique ça déclenche. sans immédiatement fermer placer les ces débats, son plan, on va dire, de débat moral ou de c'est cette manière de que tu as de suspendre le jugement encore un peu qui permet, à mon sens, de mieux comprendre aussi ce qui est en jeu, de...
C'est parfait, ce terme de suspension du jugement. C'est mieux encore que la suspension cryogénique. C'est-à-dire que l'idée, c'est de déplacer l'esthétique technologique pour ajouter quelque chose qui est plus gothique. Enfin, pas que gothique, mais qui... En tout cas, qui va dans un autre champ esthétique. De ne pas superposer... cette esthétique qui est presque qui est un peu pas fasciste, hein, mais qui, comment dirais-je, qui est très univoque avec la chose dont on souhaite parler, le propos en question, enfin, toute l'idéologie qui est encapsulée dans cette esthétique. Mm-hmm. Déplacer les choses, quoi, pour avoir un autre prisme
et pour prendre peut-être le temps de circuler à l'intérieur pour la comprendre aussi, pour
voir, évidemment,
avant même de
La comprendre, je pense que c'est aussi l'expérimenter. Moi, n'ayant pas les moyens de l'expérimenter, je l'envisage de façon plus fictionnelle.
J'expérimente. La matière de ces choses-là, parfois, c'est la fiction.
C'est la fiction, oui.
Ça vit aussi du fantasme.
Ouais.